7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines d'Abidjan à Jakarta, en passant par l'Europe, l'Amérique. Est-ce qu'on mange si mal en ville? C'est vrai qu'avec des repas pris loin de chez soi, dans la précipitation et pour un prix parfois élevé compte tenu de la qualité, on peut se poser cette question, la ville est-elle l'ennemi du bien manger? Avec le confinement et le ralentissement des échanges économiques, les citadins aspire à des plats simples, des produits plus frais, plus locaux. Mais dans le fond, que peut offrir la ville en matière d'alimentation? Les voisins, on attend vos témoignages, que vous soyez fast-food, sandwich aux spaghettis ou garbadrome pour un attiéké urbain. Vos assiettes en ville nous intéressent. Dites-nous aussi quelles sont vos astuces pour bien manger en ville. On attend vos témoignages. Sur notre WhatsApp, vous nous appelez gratuitement au 33 7 64 45 51 41. L'émission est réalisée en partenariat avec le site d'information The Conversation. Bonjour Jennifer Gallet.
Bonjour Emmanuel.
Jennifer Gallet, vous êtes journaliste pour le site d'information The Conversation. Peut-être rappelez-nous ce que c'est que ce média, pas tout à fait comme les autres avec qui nous travaillons régulièrement.
Alors oui, c'est un média qui se propose en fait d'éclairer l'actualité avec le regard des chercheurs, des experts, des universitaires. L'idée, c'est d'essayer de combler ce vide qu'il y a entre le grand public et les spécialistes et d'essayer avec une équipe de journalistes de rendre accessibles des choses complexes à un grand public et de faire circuler une information de qualité.
Et justement, The Conversation publie beaucoup d'articles de chercheurs sur l'alimentation, sur la transformation de l'alimentation avec la vie urbaine. Je vous présente deux chercheuses qui sont dans le studio de 7 milliards de voisins RFI. Christine Aubry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du collectif de recherche agriculture urbaine à l'INRAE, à AgroParisTech et Université Paris-Saclay. Audrey Soula, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue au CIRAD, Centre de Recherche sur l'Agronomie à Montpellier, et vous avez coordonné un ouvrage collectif « Manger en ville, regards socio-anthropologiques d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie » qui est paru cette année aux éditions Quae et qui d'ailleurs est téléchargeable gratuitement. On met le lien sur notre page 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr. Et puis là, je crois que c'est demain, il y a un nouveau colloque qui démarre avec des chercheurs du monde entier sur ce sujet, donc comment l'alimentation se transforme avec la vie urbaine. Nous serons aussi en ligne avec la chercheuse Estelle Kouakam, qui est anthropologue à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, au Cameroun. Et bien sûr, les voisins et les voisines, vous nous suivez en direct sur Twitter. Vous pouvez aussi vous connecter sur notre compte Instagram. Twitter, Instagram, c'est très simple, c'est 7 milliards RFI. Allez, téléphonez-nous maintenant pour nous parler de vos assiettes. 33 7 64 45 51 41. Quelques petits messages de voisins et de voisines. Philos, qui est ingénieur, agronome, il est à Luanda, en Angola. En ville, alors ville très très chère, hein, le niveau de vie est très élevé. En ville, on a le choix dans la diversité alimentaire, mais avec le Covid, nous dit Philos, ce choix s'est réduit. Il y a Eva aussi, qui est au Sénégal, qui nous dit « Moi, je préfère concocter des plats express pleins de vitamines et à moindre prix. » Je valorise nos produits locaux en leur donnant un goût fabuleux. Le prix, les aliments, les produits, évidemment, on va parler de tout cela. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41.
Maintenant, c'est elle qui prépare la sauce. Je vais aller voir tout de même. La viande est bien choisie.
Vieille, oui. À moi, non, mon goût.
A foodie.
Et qui va réussir de grands plats?
Ben, quelque chose a changé.
Cette saveur, ce goût nettement meilleur.
Voilà, les publicités sont partout maintenant dans les villes. Il faut dire aussi que ça favorise la ville, favorise l'affichage urbain. Il y a évidemment la télévision et ça influence aussi nos comportements pour des aliments transformés. Tout récemment, Boris Johnson en Grande-Bretagne a présenté au Royaume-Uni la semaine dernière un plan de lutte contre l'obésité. Un des meilleurs moyens, a-t-il déclaré, de réduire les risques liés au coronavirus. Est-ce que la ville est réellement liée à l'alimentation trop riche, trop gras, trop sucré. Qu'est-ce que vous diriez finalement là-dessus, Christine Aubry, dans l'imaginaire en tout cas, et dans la réalité?
Alors, je ne sais pas si je suis la mieux placée, mais on a quand même quelques éléments qui permettent de voir qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, et notamment en Europe et en France, dans les quartiers populaires, la malbouffe est une réalité et les maladies qui vont avec aussi. Il y a aussi de plus en plus d'études qui portent là-dessus. Et clairement, les souhaits des urbains pour aller vers de l'alimentation de proximité, y compris autoproduite en ville, est probablement quand même en partie lié à ça. Alors après, bien sûr, il n'y a pas que ces aspects d'approvisionnement direct, mais ça joue quand même de manière importante.
Audrey Soula, est-ce que la ville, finalement, nous a fait passer de la cuisine mère de famille à la maison au fast-food ?
Alors, je dirais que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que effectivement, hein, la ville concentre tous les problèmes d'industrialisation, de consommation des produits transformés, qu'a amené la globalisation. Mais si on regarde à des échelles beaucoup plus fines, hein, donc là, c'est ce que permettent, par exemple, les enquêtes socio-anthropologiques, on se rend compte que effectivement, c'est plus compliqué que ça et que plutôt qu'une uniformisation, qu'une occidentalisation des régimes alimentaires dont on parle souvent, on observe quand même une très grande diversité.
Oui, il n'y a pas d'un côté la ville, d'un côté la campagne. D'ailleurs, Madi nous dit, il est à Saraya, dans la région de Kédougou au Sénégal. Dans les villages, les aliments sont moins transformés, mais de nos jours, avec la mondialisation, il y a de nombreux échanges entre la ville et la campagne, ce qui fait qu'un campagnard peut aussi manger ce que mange un citadin. Jennifer Gallet, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire bien manger? C'est aussi une question que vous vous êtes posée à The Conversation.
Bah, il y a plein d'aspects dans bien manger. Il y a ce qu'on ingère, comment cette nourriture est produite. Et donc, c'est vrai qu'en ville, se pose la question de produire dans des endroits qu'on va penser polluer. Donc ça c'est déjà une première problématique. Puis après, bien manger, c'est aussi être en lien. C'est savoir comment le produit qu'on mange, il a été produit, par qui. Voilà, donc c'est tous ces aspects à la fois nutritionnels, mais aussi plus symboliques, qui sont à prendre en compte. Et c'est vrai que les questions autour de l'agriculture urbaine, ça lie toutes ces questions, en fait. C'est ça qui est intéressant.
Il y a la quantité, il y a le plaisir et il y a la santé. Je dirais, il y a quand même, il y a aussi ce qu'on dépense, hein, bien sûr. Mais il y a quand même plusieurs choses à prendre en compte dans ce bien manger. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On donne la parole à une auditrice qui nous appelle de Ouagadougou au Burkina. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour Emmanuel.
Eh ben, je vais vous poser la question à vous aussi avant de vous donner la parole. Bien manger en ville, qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Pour moi, bien manger en ville, c'est d'abord manger sain. Ce qui n'est pas évident de nos jours. Avoir le choix, en tout cas, choisir entre ce qui est sain ou pas, voilà.
Oui. Et alors concrètement, manger sain et avoir le choix en ville, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous au quotidien?
Moi, l'accent va sur l'hygiène.
Oui.
L'hygiène surtout, parce que la conservation, parce que moi, je suis à Ouaga.
Oui.
Après, il y a certains mets locaux qui sont très bien faits, mais les conditions dans lesquelles ces mets-là sont vendus sont pas trop ça, quoi. Donc pour moi, c'est l'hygiène avant tout.
À quoi vous pensez, à quel plat vous pensez?
Moi, je compte plus pour le babenda, c'est ce que j'achète le plus.
Un plat à base de feuilles, hein, souvent des feuilles d'oseille.
Oui, des feuilles, un peu de riz à l'intérieur, tout ça.
Ouais. Mais ça, là, ça pose un problème d'hygiène quand vous l'achetez, si vous l'achetez dans la rue, par exemple, c'est ce que vous voulez dire?
Non, ça dépend. Après, ça dépend de là où on l'achète. Parce que moi, j'ai l'habitude de l'acheter chez une mamie. Une mamie qui le fait à domicile, la cour est très bien, est très propre, les ustensiles, tout ça. Mais après, il y a certains endroits qui sont peu recommandables. Ouais. Voilà.
Donc, vous achetez à domicile chez une tantie ou une mamie, c'est ça?
Une mamie. Oui,
et là, vous vérifiez comment c'est fabriqué. Finalement, vous avez votre propre filière d'une certaine manière.
Tout à fait.
Et sinon, alors, à part le problème de l'hygiène, comment vous faites pour vous approvisionner et bien manger en ville, comme vous le disiez, c'est-à-dire avoir du choix et acheter des choses saines?
Après, moi, je, comme tout citoyen, nous allons au marché.
Oui.
Le marché pour la viande, le poisson, pour certains ingrédients locaux. Après, il y a des grandes surfaces pour les conserves. Voilà.
Ouais. Et là, vous achetez des aliments importés. Vous êtes dans un quartier où il y a du maraîchage urbain ou pas, Marie-Jeanne ?
Si, tout à fait. Je suis dans un quartier qui abrite pas mal de barrages. Donc après, il y a quelques femmes, quelques vieilles d'ailleurs, qui utilisent le pain de terre.
Ouais.
Voilà, qui font les produits maraîchers, la salade, la tomate, voilà.
Ah oui. Vous êtes où exactement à Ouagadougou, Marie-Jeanne ?
À Ouaga, moi je suis à Tanguay.
D'accord. Donc ça veut dire que finalement, par moment, vous pouvez vous approvisionner presque comme à la campagne.
Ah oui, quand même, ouais. Parce que quand il s'agit de la salade, ouais. Comme ça, c'est vraiment
ouais. Bien. Christine Aubry, vous connaissez.
Oui, ben malheureusement, je ne connais pas encore Ouagadougou, mais ce que dit Marie-Jeanne est très illustratif du fait que parfois en ville, on mange plus de produits frais, et notamment de légumes feuilles, que peut-être à la campagne. En tout cas, ce qu'on voit très clairement, c'est que malgré l'accroissement des villes, et Ouaga est une des villes qui a beaucoup grandi aussi, on a quand même la maintenance, voire parfois le développement d'une forme d'agriculture qui fait des produits ultra frais, comme les légumes feuilles. Mmh. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je crois que Marie-Jeanne a dit aussi quelque chose qui est très important, qui est l'hygiène. Alors, l'hygiène de ces produits, ça peut déjà commencer dans les conditions de production. Moi, j'ai travaillé pas mal sur Antananarivo, à Madagascar, où par exemple, on sait maintenant de manière importante que le cresson, qui est fortement consommé par les Tananariviens, est produit dans des conditions, on va dire, hygiéniques pas optimales. Oui. Le dire comme ça.
Pourquoi c'est le problème, c'est l'eau de lavage
C'est surtout l'eau de production qui est en fait l'eau résiduaire des maisons. Donc
ah on oui, a, les voilà, égouts. C'est ça. Le cresson est arrosé avec les eaux usées.
Voilà, oui. Le cresson adore cette situation-là. Mais par contre, c'est vrai que par exemple, les Tananariviens se sont adaptés en consommant le cresson cuit et plus cru. Parce que pour des raisons bactériologiques évidentes. Voilà, donc c'est effectivement important, cette agriculture qui produit des produits frais dans les villes, on les voit vraiment de manière importante en Afrique de l'Ouest, à Ouaga, mais je connais aussi des cas au Sénégal, à Bobo, dans pas mal d'autres villes. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut, je pense, préserver tout en essayant effectivement d'être plus regardant sur les conditions hygiéniques.
C'est intéressant de ce que vous disiez, que finalement les habitants s'adaptent aussi, peuvent changer la manière de cuisiner en fonction des problèmes d'hygiène que ça pose. Est-ce que Marie-Jeanne, vous, ça vous arrive aussi d'adapter votre façon de cuisiner en fonction des problèmes qui se trouvent sur votre chemin pour faire vos courses ?
Ah oui, parfois ça arrive, oui.
Vous payez cher le panier de la ménagère à l'heure actuelle à Ouagadougou quand vous vous approvisionnez dans le petit maraîchage urbain ?
Le petit maraîchage urbain, c'est presque gratuit parce que après, c'est des vieilles femmes, des vieilles veuves en fait. Mmh. Des veuves qui ont eu ce projet-là, histoire de ne pas rester là peut-être à manger. Voilà, donc avec, je pense, 400, 500 francs, vous pouvez avoir un bon panier de salade, de laitue. Voilà, elles sont vraiment à moins de coûts, parfois moins même que sur le marché.
Moins d'un euro, oui. Merci beaucoup Marie-Jeanne d'avoir été en ligne avec nous. Vous continuez de nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Dites-nous quelles sont vos astuces pour bien manger en ville. Vous citiez, Christine Aubry, une agriculture finalement urbaine qui, bien que les villes soient en pleine croissance, se porte plutôt bien, non ?
Oui, alors elle se porte plutôt bien, bon, avec quand même des variations, bien sûr, entre les contextes, parce que les systèmes ont changé. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, par exemple, aux alentours de Tana, des collines qui étaient auparavant uniquement des parcours pour les animaux, qui deviennent des collines maraîchères. On voit tout un tas d'espaces dans la ville qui sont colonisés, je veux dire, par l'agriculture. Et puis, on a des phénomènes assez intéressants. Marie-Jeanne citait ces petites dames, là, ces vieilles dames à Ouaga. Moi, ça me rappelle une expérience qui a eu lieu à Dakar, où au départ, des femmes en situation de grande vulnérabilité ont été soutenues pour pouvoir faire dans les cours, sur les toits, etc., des petites productions de salades. Et ça, c'était au début du siècle. Ben, 20 ans plus tard, on a 9 groupements d'intérêt économique. Ces femmes approvisionnent la ville à près de 50% en salade. Enfin, on a vraiment des phénomènes de croissance parfois locale qui sont tout à fait intéressants.
Alors, ça pose quand même le problème de la pollution, Jennifer Gallet, parce que il est cité dans certains articles que vous publiez, notamment des expériences en Île-de-France. Hein. On a plus de 360 hectares d'agriculture. On a maintenant en France des projets de toits végétaliers en petit maraîchage. Est-ce que le confinement, les couvre-feux ont montré une opportunité pour l'agriculture urbaine malgré les problèmes de pollution que ça va forcément poser à terme ?
Mais en fait, ce qui est intéressant, et là je pense que Christine pourra parler plus en détail de l'enjeu de faire pousser en fait des choses en ville avec la composante pollution, parce qu'il y a des recherches à AgroParisTech qui ont été menées pour montrer ce qui se passe avec la terre, etc. Par rapport au Covid, ce qui est intéressant, c'est que ça souligne le besoin du circuit court, quoi. Il faut s'approvisionner, on peut pas faire beaucoup de kilomètres. Donc il faut trouver des choses variées. L'auditrice nous disait, moi je cherche des choses variées, des choses qu'on peut mettre dans son assiette, pas toujours les mêmes, de qualité. Et c'est vrai que le Covid, il représente en fait il montre bien la nécessité de ces circuits courts avec aussi toutes les problématiques de l'approvisionnement, c'est-à-dire d'avoir assez pour alimenter ces circuits courts à côté d'une grande distribution qui quand même domine.
Et date pas seulement du Covid. Parce qu'il y a eu des expériences, je pense aux États-Unis, issues de la crise américaine de 2008, où on avait des villes qui étaient complètement en ruine, en cessation de paiement, comme à Détroit, où il y a eu plein d'expériences de maraîchage, etc.
Oui, en effet, ça c'est un peu l'exemple qu'on aime à citer de ces quartiers majoritairement afro-américains qui se sont retrouvés sans épicerie, sans supermarché, avec plus rien du tout pour s'alimenter, qui devaient faire des kilomètres pour aller se chercher de quoi manger.
Cause des faillites commerciales à l'époque.
Des faillites commerciales de tous ces commerces qui ont mis la clé sous la porte, et du coup il y a eu ce mouvement de se réapproprier des pratiques pour produire soi-même sa production alimentaire, et qui a accompagné aussi un mouvement plus social, d'autonomie, et puis de savoir à nouveau ce que c'est que de planter et puis de récolter, ce qui est quand même important.
Et tout ça en ville. Vous restez bien sûr avec nous, je vous redonne le numéro de WhatsApp pour nos auditeurs, 33 7 64 45 51. 41, quelles sont vos astuces pour bien manger en ville ? Il y a vraiment une énorme diversité de solutions maintenant. Chacun s'approprie ce qui lui convient le mieux. On donne la parole à un étudiant qui est à Cotonou, au Bénin. Bonjour Akilou. Akilou, est-ce qu'il est en ligne avec nous ? Oui, il a raccroché. Il est parti, il s'est impatienté. Il a dit, on ne me donne pas la parole. Non, on va vous rappeler. Akilou, soyez tranquille. Audrey Soula, on était en train de parler de la façon de s'approvisionner en produits, parce qu'avant de parler de cuisine urbaine, il faut bien sûr avoir des produits. On voit bien que finalement, comme le disait cette auditrice à Ouagadougou, on mélange un peu tout, un peu de maraîchage, un peu de produits importés, un peu de produits transformés, et tout ça, ça donne quelque chose à l'arrivée dans l'assiette.
Oui. En fait, ce qu'on remarque, c'est que les gens mettent en place diverses stratégies, en fait, pour s'alimenter correctement. Et pour donner un exemple donc que je connais assez bien, à Casablanca par exemple, donc je mène une enquête
au Maroc,
à Casablanca au Maroc, je mène une enquête avec une chercheure qui s'appelle Hayat Zirari, et ce qu'on a montré, c'est que donc une ville dans laquelle il y a eu des mutations très importantes, hein, avec qui a engendré un éloignement important entre le domicile familial et le lieu de travail, l'activité salariée des femmes, etc., à renforcer la consommation hors domicile. Alors même
parce qu'on n'a plus le temps de revenir chez soi, par exemple, pour le déjeuner.
Par exemple, voilà.
Et que les trajets sont longs, il y a les embouteillages,
et
tout ça.
Et que les femmes qui étaient en fait les garantes de l'alimentation familiale, le travail. Et donc, ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait un accroissement de la consommation hors domicile, alors même que la nourriture préparée à la maison reste très prisée et très valorisée. Je me souviens d'un homme qui disait quand je cherchais une femme qui cuisine fait maison parce que c'était...
Même si elle n'a pas le temps de le faire en vrai.
Voilà, c'était très important. Et donc, on a vu finalement des femmes qui mettent en place tout un tas de stratégies pour pouvoir alléger ce travail-là, pour pouvoir gérer ce quotidien, continuer à bien manger et en même temps, eh bien, continuer à travailler et s'affranchir aussi. Ouais.
Et ça peut être donc d'acheter des plats déjà préparés chez d'autres femmes.
Alors, par exemple, eh bien, demander à sa cousine, à sa sœur, de préparer le pain contre rémunération, pour pouvoir continuer à consommer quelque chose de fait maison, mais en s'allégeant de ce travail-là. Ça peut être, par exemple, le couscous, donc traditionnellement mangé le vendredi. Ça peut être aller le consommer plutôt le samedi et le dimanche chez sa mère ou chez sa belle-mère, pour continuer finalement à consommer ce plat traditionnel, mais dans un contexte et avec une stratégie qui permet d'alléger ce travail-là au quotidien,
qui est très lourd. Ça ressemble un peu à l'Europe, où on n'a pas tellement le temps de cuisiner dans la semaine et on va cuisiner soit le week-end, soit effectivement on va aller manger des choses qui appartiennent à notre patrimoine culinaire dans la famille, chez les parents qui ont plus de temps pour cuisiner, etc. Finalement, on a l'impression que là, il y a quand même une uniformisation du fait du travail de la semaine qui prend beaucoup de temps. En tout cas, vous nous appelez pour nous raconter vos astuces pour bien manger en ville. On le voit, ces villes qui se transforment très vite. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41 à Kilou. On cherche à vous joindre à Cotonou. On vous prend dans quelques instants, j'espère. C'est un étudiant qui a des astuces pour s'approvisionner en produits de bonne qualité. Ça sera juste après Vida.
Leva dessa vida, é a vida que a gente leva. O que a gente leva dessa vida, é a vida que a gente leva. São Joões, São Pedros que trabalham. Numa calçada da glória, vendem discos que não tocam mais, canções de outros carnavais. A gente leva o que a gente leva dessa vida, é a vida que a gente leva. São Joões, São Pedros que trabalham.
Vous écoutez RFI, 7 milliards de voisins, on est en direct et aujourd'hui on se demande comment les villes transforment l'alimentation. Est-ce qu'on mange plus mal depuis que nous vivons la plupart en ville? C'est pas sûr, en tout cas il y a une vraie diversité. Des auditeurs nous disent, moi j'essaye d'acheter des aliments sains et je veux aussi du choix, je veux de la diversité. Akilou nous a posté ce message, on n'arrive pas à le rappeler, il a 24 ans, il est étudiant à Cotonou au Bénin. Il nous dit, depuis le confinement je ne veux plus aller dans les fast-food, j'ai peur de mal manger, je consomme plus localement, je mange de l'igname, du fromage, de la bouillie de soja et de la pâte de maïs et des haricots. J'achète à une dame de mon village à qui j'envoie un mobile monnaie qui me fait parvenir par le bus mon panier. ça permet de manger sain et de meilleure qualité, et plus en quantité. Et en ville, c'est plus cher, c'est de moins bonne qualité, il y a plus d'engrais chimiques. On peut bien manger en ville si on a un circuit parallèle. C'est quand même extraordinaire. Ce que nous décrit Akilou, c'est le circuit des AMAP qu'on a en Île-de-France, par exemple.
Voilà, oui, c'est un peu
plus informel.
Voilà, c'est un peu plus informel, mais c'est très intéressant ce qu'il dit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est vrai que ça ressemble effectivement à toutes ces formes d'approvisionnement plus locales. Hein. On a parlé tout à l'heure d'autoproduction. Là, c'est vraiment de l'approvisionnement auprès des producteurs locaux ou pas très loin.
Grâce au numérique, il peut payer à distance.
Grâce au numérique, tout à fait. C'est un vrai, là pour le coup, une vraie combinaison entre l'envie de manger plus traditionnel et les outils plus numériques, plus récents. Je pense que ce qu'il illustre aussi, il a dit depuis le confinement, et je crois que ce confinement un peu généralisé, il a effectivement changé nos habitudes. Alors je pense qu'Audrey doit avoir aussi des éléments là-dessus. Ce qu'on voit très, très nettement en France, c'est que ça a remis des gens à cuisiner. Ça a énormément boosté justement toutes ces AMAP ou toutes les autres formes d'approvisionnement local, avec quand même un renforcement, et ça c'est quand même très important à le souligner, des inégalités alimentaires. C'est-à-dire que nous, par exemple, nous travaillons avec l'IRD à Bondy, et on a vu pendant le confinement,
en banlieue parisienne,
voilà, où il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration, notamment de l'immigration africaine et asiatique, et où on a vu que vraiment pendant le confinement, les personnes n'avaient en gros accès plus qu'à un Lidl, hein, au lieu de tous les marchés précédents.
Donc un supermarché
low cost,
à bas prix.
Voilà. Où ils trouvaient ce qu'ils pouvaient trouver, et c'était vraiment un gros problème, cet approvisionnement local, parce que là, pour le coup, il n'y avait pas beaucoup de maraîchers franciliens qui venaient livrer dans ces quartiers. C'est une grosse problématique aujourd'hui, c'est finalement en quoi des formes d'agriculture intra ou périurbaine pourraient contribuer mieux à l'alimentation de ces quartiers populaires.
Ouais. Christine Aubry, vous parlez beaucoup de l'agriculture urbaine, puisque c'est votre spécialité à l'INRAE. Audrey Soula, vous êtes aussi avec nous, et vous êtes anthropologue au CIRAD, le grand centre de recherche sur l'agronomie. Et vous avez beaucoup travaillé sur la façon dont finalement la ville transforme aussi un petit peu le patrimoine culinaire. Il y avait cette auditrice tout à l'heure qui parlait du babenda à base de feuilles, qui est devenu vraiment le plat emblématique de la ville de Ouagadougou, mais c'était pas le cas tellement initialement, non ?
Oui, tout à fait. Oui, oui. Nous, les enquêtes qu'on a menées en partenariat avec des chercheurs locaux ces dernières années ont montré que quand même, on assiste à des formes de reconquête de la consommation alimentaire par les mangeurs urbains. Donc, c'est par exemple le cas du babenda au Burkina Faso, hein, qui à la base, donc un plat à la base, c'est un plat conçu en fait pour économiser les réserves et tenir jusqu'aux prochaines récoltes.
Ouais,
c'est ce qu'on appelle un plat de soudure.
Ouais,
voilà,
ouais.
Tout à fait.
C'est-à-dire où on met quand même un petit peu de riz ou de maïs ou de céréales pilées avec les feuilles.
Voilà, c'est ça, qu'on mélange avec donc les premières feuilles, en fait, les jeunes feuilles, les premières feuilles qui arrivent avec le début de la saison des pluies. Donc ça peut être l'oseille, l'amarante, la cléone. Et en fait, ce babenda... qui est un plat de pauvres, on peut dire, du monde rural, eh ben, aujourd'hui, c'était un interlocuteur qui nous disait ça devient à la mode.
Et ouais, c'est un truc tendance.
Voilà,
ouais.
Ça devient à la mode, et ça devient à la mode, alors pas pour tout le monde, évidemment, mais ça devient à la mode pour une partie d'urbains qui n'ont plus, en fait, qui ont perdu ce souvenir aussi d'expérimenter ce plat de soudure.
C'est ça. Et on a envie, finalement, en vivant en ville, forcément avec un mode de vie un peu plus occidentalisé, on a envie de retrouver un patrimoine culinaire qui n'était d'ailleurs pas forcément de son ethnie à l'origine. Je crois que c'est un plat aussi.
Oui, c'est ça. Ouais.
Mais en tout cas, c'est un plat traditionnel. Ouais. C'est la même chose aussi pour les garbas de Rome à Abidjan.
Alors, garbas.
On mange un attiéké avec un thon salé frit et servi, comme on dit, mouillé, c'est-à-dire arrosé d'huile de friture, une huile de friture qui est brunie par les cuissons successives. C'est ce que vous écrivez, je crois.
Et qui est un gage de qualité.
Qui est un gage de qualité.
De l'attiéké garba.
Parce que cette huile, en fait, elle donne un petit goût un peu brûlé, un peu. C'est assez bon, mais c'est effectivement pour la santé, c'est pas terrible. Mais voilà. Ça peut être très goûteux.
Alors effectivement, là, cet exemple est magnifique parce que là, on assiste donc à un plat qui est décrié comme étant la malbouffe ivoirienne par excellence, malsaine, absolument malsaine, et mais de plus en plus fréquentée. Au départ par la jeunesse près des universités, mais aujourd'hui par toute une population ivoirienne. Mmh. Et alors, ce qu'ont montré les études, c'est qu'en fait, pourquoi il a pris une telle importance, c'est aussi pour s'opposer aux normes en fait hygiénistes perçues aussi comme non africaines. Mmh. Et on voit là en fait comment aussi l'alimentation peut permettre de renforcer une identité, par exemple, culturelle et sociale.
Un plat bien de chez nous, donc. Voilà. Vous nous appelez, les voisins et les voisines, au 33 7 64 45 51 41. On va accueillir dans quelques instants Kali, qui est une voisine à Dakar, puisqu'on pose la question, quelles sont vos astuces pour bien manger en ville, hein, si la ville était considérée comme l'ennemi de la bonne cuisine. Mais avant, je voudrais donner la parole à Estelle Kouakam, qui est anthropologue à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour Madame Kouakam.
Bonjour.
Estelle Kouakam, vous avez beaucoup travaillé, vous, sur l'alimentation des enfants de 0 à 3 ans. Vous dites que les mamans sont très influencées par la publicité. Comment ça a transformé la façon de nourrir les enfants en ville?
En fait, en ville, l'une des choses qui caractérise la ville aussi, c'est l'accès aux médias, la présence des messages publicitaires. Et aussi le contact que les mamans ont avec les structures hospitalières impacte aussi la conception qu'elles vont avoir de ce qui est bien, de ce qui est bon. Alors pour bien remettre la situation en contexte, on va partir des classes sociales. C'est-à-dire que lorsqu'on a des préparations industrielles pour les enfants, par exemple le saveur biscuité, on se rend compte que dans les classes sociales modestes, où il n'est pas toujours facile d'avoir accès à ces préparations-là, les mamans vont faire leur préparation à la saveur biscuitée à base de petits biscuits qui sont vendus dans des commerces, dans des échoppes.
Mmh. Qui ne sont pas des biscuits vraiment conçus pour les enfants à la base,
non,
pour le coup.
Pas du tout. Oui. Ils sont très sucrés.
Ah oui.
Ils coûtent en moyenne 25 francs CFA. Et donc, elles vont faire de la bouillie à base de maïs, par exemple.
Donc, qu'elles mélangent avec les biscuits écrasés.
Voilà, pour avoir cet arôme-là, saveur biscuitée. Donc, elles vont utiliser des éléments, c'est-à-dire des ingrédients de préparation qu'elles trouvent dans les petites boutiques. Je peux parler des biscuits, on peut aussi parler de l'ajout du sucre aussi, des sucres en morceaux qu'on peut vendre en détail. Mmh. Donc, elles vont le faire pour approcher un peu le goût de ce qui est proposé dans les messages publicitaires.
Oui, mais avec des produits plus chers qu'elles ne peuvent pas s'acheter. Vous diriez, voilà, Estelle Kouakam, que l'alimentation urbaine des enfants est nettement plus sucrée aujourd'hui?
Oui,
au Cameroun,
je dirais que c'est beaucoup plus sucré aujourd'hui, même si dans les entretiens que nous avons eus avec les mamans, elles disent faire attention à la quantité de sucre, mais lorsqu'on voit les ingrédients qu'elles y ajoutent, par exemple, il y a des marques de biscuits qui portent presque le nom de sucre. Et elles utilisent ces petits biscuits qu'elles ajoutent à leur préparation.
Donc là, la maman, elle ne cherche pas à copier le patrimoine, à reproduire le patrimoine culinaire du village, en ville, mais plutôt à copier les publicités inspirées de l'occidentalisation et avec des produits qui sont trop chers pour elle.
C'est beaucoup plus complexe que ça.
Ah oui.
C'est-à-dire que dans la discussion, on se rend compte que il y a ce désir de modernité, il y a ce désir d'être en phase avec ce que montrent les médias, avec les images de la publicité. Mais il y a aussi un désir identitaire qui se traduit par le fait que, pour les mamans, souvent les plats dits nourrissants, ou bien les plats qui rendent fort, ce sont des plats qui ont une connotation identitaire forte. C'est-à-dire que chez une maman, Bakoko, par exemple, c'est une ethnie du littoral du Cameroun, va vous dire qu'à partir de 8-9 mois, elle donne à son enfant la nourriture des Bakoko, qui est le macabo à l'huile rouge. Donc, ces plats-là, et ça, ce n'est qu'un exemple. Ailleurs, s'il s'agit de la pâte de maïs avec du gombo, voilà, qui est un légume gluant, elles vont dire que ces plats, qui sont des plats qui font partie de leur patrimoine culinaire, ce sont des plats qui rendent fort, ce sont des plats qui rendent solides.
Donc, c'est ça. Finalement, elles font leur propre cuisine entre tradition et modernité. Et c'est toujours, effectivement, pas simple à bien percevoir, hein, la façon. C'est plein de paradoxes. Merci beaucoup, Estelle Kwokam, d'avoir été en ligne avec nous, anthropologue à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, au Cameroun. Jennifer Gallet, vous qui êtes journaliste pour le site d'information The Conversation, nous réalisons cette émission en partenariat avec votre site d'information qui donne très largement la parole à des chercheurs. On voit bien à quel point la relation que nous avons tous, hein, que nous appartenions à des villes du nord ou du sud, nous avons une relation complexe avec notre alimentation.
C'est certain, et ce qui est intéressant, je trouve, dans ces phénomènes d'intrication entre des productions alimentaires, type grande distribution, occidentalisée, etc., et puis des productions plus locales, plus traditionnelles, c'est un incroyable mélange qui se passe un peu partout, parce que ces phénomènes de production d'alimentation en ville, on voit, c'est en Afrique, c'est en Asie, c'est en Europe, ça prend des formes extrêmement variées. Et je dirais aussi que moi, ce qui m'a intéressée sur cette question, c'est tous les aspects en fait que ça peut recouvrir, et aussi notamment dans les villes, aussi la question de la présence de la nature en fait, des espaces qui seraient cultivés, qui seraient verts, qui pourraient nous apporter aussi de la fraîcheur quand il fait trop chaud, qui permet que la ville ne soit pas qu'un immense amas de béton. Donc il y a toutes ces dimensions en fait qui sont extrêmement intéressantes, je trouve. Au-delà de l'assiette aussi.
Oui, on n'a pas encore parlé de la cuisine urbaine en termes d'opportunités économiques. Là, effectivement, l'agriculture urbaine, ça peut aussi améliorer le paysage urbain avec des jardins urbains, des potagers urbains. Mais Christine Aubry, c'est toute une chaîne économique très intéressante en termes de création d'emplois, de débouchés.
Alors, c'est extrêmement variable là aussi selon les formes d'agriculture urbaine. En tout cas en Europe, ce que l'on voit de manière assez claire, c'est que les exploitations d'agriculture urbaine, qu'elles soient associatives ou sous forme d'entreprise, en tout cas en France, ont du mal à vivre sur la seule vente de la production. Il faut au minimum transformer, et très souvent, ces exploitations d'agriculture urbaine ont plusieurs activités. Mais dans ces activités, il y a des choses qui sont relatives à ce que vient de dire Jennifer, c'est-à-dire finalement offrir des services éducatifs, des services environnementaux, offrir des services de loisirs. Et cette agriculture urbaine, en fait, elle sert à beaucoup de choses lorsqu'elle est en tout cas à ciel ouvert, sous une forme de micro-ferme, que ce soit au sol, sur les toits, etc. Voilà, c'est vrai qu'on a aussi l'émergence de nouvelles filières. Par exemple, clairement, on n'avait pratiquement plus de champignons dans Paris ou autour de Paris. Il y a maintenant des champignonnières urbaines qui se mettent en place.
Alors que ça s'appelait bien les champignons de Paris.
Absolument,
mais ils n'étaient plus
produits là. Plus du tout produits à Paris, malheureusement, pour l'essentiel. Et puis, on a aussi, par exemple, des endives qui ont commencé à produire dans des parkings. Voilà. Donc, il y a des choses comme
parce
ça.
Parce qu'il n'y a pas besoin de lumière ni de soleil pour les endives. Vous parliez de la quantité, effectivement. Pour vivre, il faut cultiver une certaine quantité. Est-ce que ce problème-là, et donc en région parisienne, vu les coûts, etc., de la vie, c'est difficile si on ne transforme pas ce qu'on produit, c'est difficile de vivre de ça, de cette agriculture urbaine en Île-de-France. Mais est-ce que dans des villes du Sud, où le niveau de vie est moins élevé, est-ce que cette agriculture urbaine, l'auditrice tout à l'heure nous citait ces mamans qui sont en fait des femmes en très grande précarité, qui cultivent dans certains jardins urbains à Ouagadougou, mais est-ce que finalement cette agriculture urbaine, elle n'est réservée qu'à ces, ces populations très précaires?
Alors, dans ce que je connais, moi, des villes du Sud, qui sont plutôt effectivement Madagascar et Burkina et Sénégal, on voit d'une part que cette agriculture intra- et périurbaine très proche, elle fournit, on estime, entre 60 et 100% de tous les produits frais, c'est-à-dire les légumes, mais aussi le lait, les œufs, voilà, un certain nombre de produits qui sont donc indispensables pour la population urbaine. Alors, elle n'est pas que réservée, bien sûr, à la population, on va dire, qui est la plus précaire. Ce que l'on voit, c'est une forte appétence des populations précaires. On l'avait montré aussi à Madagascar à travers un très joli petit projet d'autoproduction. Forte appétence de ces populations à produire elles-mêmes. Et moi, je serais aujourd'hui curieuse de savoir s'il n'y a pas eu une recrudescence, justement, avec le Covid, d'autoproduction, de forme d'autoproduction dans les villes du Sud. Parce que c'est très probablement une des formes, enfin on l'avait montré hein, d'ailleurs dans le cadre du projet ONA à Madagascar, c'est une des formes de résilience. Hein,
D'autant plus qu'au moment du confinement, on l'a vu notamment à Madagascar et pas seulement, la préoccupation principale pour les gens, ça a été de rejoindre le village pour être sûr de pouvoir s'approvisionner. Et ça a été quand même un réflexe.
Voilà, je pense
on l'a vu en Inde, etc., oui, avec des transhumances absolument gigantesques. Donc ça posait bien le problème de l'alimentation en ville. On accueille notre auditrice qu'on a retrouvée, Kali, à Dakar, au 33. Kadi, qui nous appelle au 33 7 64 45 5. 51. Bonjour Kadi. Kadi, est-ce que vous êtes bien en ligne avec nous? Bon, on a des problèmes de ligne téléphonique aujourd'hui. Alors, je ne sais pas. Kadi voulait nous dire qu'elle préparait des repas pour 4 personnes et qu'elle faisait exclusivement ses courses au marché parce que justement, elle a besoin de savoir ce qu'elle mange. Ça, c'est quelque chose... nous, on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent quand on parle de patrimoine culinaire sur le continent africain qui nous disent d'abord, on a besoin de se nourrir, de manger beaucoup. Mais ensuite, il y a quand même cette préoccupation qui émerge maintenant très nettement de savoir ce que l'on mange, Christine Aubry.
Oui, tout à fait. Et ça a été, je veux dire, depuis le début du siècle en Europe, ça a été un des moteurs majeurs des circuits courts. Et aujourd'hui, je crois que c'est un des moteurs majeurs de l'agriculture urbaine et intra-urbaine et des souhaits énormes, enfin vraiment, qu'on voit de manière énorme dans les quartiers, dans tous les quartiers d'ailleurs, qu'ils soient pauvres ou moins, d'autoproduction, de savoir d'où viennent les produits. Alors c'est soit de l'autoproduction, soit des formes de relations étroites avec les producteurs. Et ça, c'est quelque chose qui maintenant est international. Hein, donc,
oui. Voilà. Audrey Soula, vous confirmez aussi?
Oui, et en même temps, je voulais...
Rapidement, oui.
Très rapidement, d'accord. Et en même temps, je voulais pointer du doigt aussi tous ces messages en fait, normatifs sur le bien manger dont on est au quotidien soumis, en fait, et qui peut générer aussi des formes de stress et d'anxiété chez tous ces urbains.
Oui, parce que maintenant, on dit aux gens, bien manger, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit bon pour la santé, il faut que ça donne du plaisir, bien sûr, il ne faut pas que ça soit trop cher, il ne faut pas que ça soit mauvais pour l'environnement, voilà, il faut qu'il y ait des normes d'hygiène, etc. Ça fait beaucoup de choses dans un plat à respecter. La cuisine urbaine, Jennifer Gallet, est-ce qu'elle va contribuer à rendre une ville finalement plus humaine, davantage capable de faire vivre un patrimoine culinaire, d'être plus heureux en ville?
Déjà, ce que je trouve moi intéressant dans tous ces phénomènes, c'est d'avoir le souci de savoir comment se passe la production, comment on fait pousser des légumes, d'où ça sort, c'est quoi les contraintes, etc. Et donc tout ça va dans un souci d'être plus impliqué et d'être aussi mieux informé et de prendre sa part. Et en fait, là, dans tout ce qui est dit, je trouve qu'on dit c'est difficile, les gens ils peuvent être un peu stressés et tout, mais c'est aussi parce que ça veut dire qu'il faut que les gens prennent une part active à leur alimentation et que d'une certaine façon on parle d'agriculture urbaine et on parle aussi de jardins citoyens, de mouvements citoyens autour de toutes ces initiatives, parce que c'est prendre sa part en fait et c'est dire bah voilà, moi je participe à un jardin, je vais acheter mon truc à la MAP et ne pas être juste derrière son caddie, ce qui réclame une autre forme forme d'engagement. Voilà. Et ça me paraît important aussi comme aspect.
Et c'est ce que nous ont dit d'ailleurs aussi nos auditeurs sur le continent africain, hein, de prendre une part active. C'est pas seulement remplir son estomac, même si bien sûr c'est quand même l'essentiel, mais ça devient un acte citoyen que cette cuisine urbaine qui n'en finit pas de se transformer d'ailleurs, Audrey Soula. Hein. Il y aura peut-être encore dans les années à venir encore des plats qui se seront encore retransformés à partir d'un patrimoine initial.
Oui, exactement. Et
vous avez un dernier exemple à donner, c'est maintenant.
Non, je finirai juste pour dire que l'alimentation, c'est avant tout une dynamique. Et donc, c'est ça qui est important à retenir, je pense que c'est...
Ouais.
C'est
et puis,
elle va
une façon de vivre ensemble. Et une façon aussi de vivre
tout
ensemble,
à fait.
Quand même. Hein.
Et on voit effectivement, aujourd'hui, des communautés africaines, par exemple, vivant en France, qui cherchent de plus en plus à produire leurs propres légumes africains en France, en profitant du fait qu'il fait plus chaud en ville.
Enfin, avec le réchauffement climatique, ça
voilà,
sera
exactement.
Peut-être plus simple. Merci en tout cas à vous toutes, Christine Aubry, spécialiste d'agriculture urbaine à l'INRAE. Merci à vous, Audrey Soula, anthropologue. Merci, Jennifer Gallet, du site d'information The Conversation. Et bien sûr, nous avons mis tous les liens sur notre page 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr pour retrouver les articles produits par les chercheurs et édités par The Conversation. Et merci à Estelle Kouokam, anthropologue à l'Université catholique de Yaoundé au Cameroun. L'équipe, c'est Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouz. On se quitte avec une chanson bien assaisonnée à la mode de Kinshasa, Semba Bilokota avec le staff Benda Bilili.
Semba Bilokota.
Benda Bilili, vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins, RFI dans quelques instants, le journal. Et j'en profite pour vous donner le programme de demain, 7 milliards de voisins. Pas ce soir, j'ai mal à la tête. Et si l'on parlait du consentement dans le couple, des petits arrangements au quotidien, à l'agression sexuelle, un sociologue a enquêté sur l'un des sujets les plus tabous de nos sociétés, la sexualité non consentie dans le couple. Comment dire « pas ce soir » quand on est marié ? Vous avez la parole au 33 7 64 45 51 41. Soyez nombreuses, à demain.